Mandrin. Deuxième partie, chapitre 18. Au secours de Mandrin. Quelques jours après les événements que nous venons de décrire, tandis que l'instruction du procès de Mandrin se poursuivait à Valence, où le révolté avait été transporté, Louis XV, de plus en plus rongé par son inguérissable ennui, s'apprêtait à quitter Fontainebleau. Assis dans son cabinet de travail, la marquise de Pompadour apparut subitement en proie à une émotion qu'elle s'efforçait en vain de réprimer. Le roi, à sa vue, eut un léger sourire. Il espérait sans doute que sa favorite allait lui apporter quelque distraction, soit en lui narrant une historiette inédite, soit en lui soumettant quelque projet de fête. Mais, s'apercevant à l'attitude de la marquise qu'elle devait être plutôt messagère de quelque importune nouvelle, il fit sur un ton de politesse renfrogné.
« Cher ami, vous semblez fort mécontente. Qui donc a eu l'insolente audace de vous causer du souci ?»«
Vous, sire, » répliqua Madame de Pompadour, avec une promptitude et une netteté de repartie qui piqua au vif l'amour-propre et la curiosité du monarque.
« Moi ? » s'exclama-t-il.
« Veuillez croire que cela a été de ma part très involontaire. Faites-moi donc savoir tout de suite le sujet de votre courroux, pour que je puisse l'apaiser, et vous dédommager de la peine que, malgré moi, je vous ai causée.
Sire, je l'espère d'autant mieux qu'en venant vous trouver, j'obéis surtout au grand désir qui m'a toujours animé, celui de servir avant tout la gloire et les intérêts de votre majesté.
« Oh oh !» souriait le roi avec son scepticisme habituel. « Je crois savoir ce dont il s'agit. Votre ami Mandrin, n'est-ce pas ?»«
Oui, sire. Je viens d'apprendre que Mandrin avait été arrêté en Savoie et ramené en France. »
« Je l'ai ouï dire, en effet. »
« J'ai su également qu'il était déféré devant le présidial de Valence et qu'il allait être condamné au supplice de la roue. »
« Que voulez-vous que j'y fasse ?»«
Sire, vous aviez fait grâce à Mandrin. »«
Oh, dites plutôt que vous m'avez arraché ce pardon. »«
C'est possible, mais vous avez signé. »
« Monsieur d'Argenson m'a fait comprendre que la raison d'État exigeait que Mandrin fût châtié. »
« Sire, monsieur d'Argenson vous a fait commettre une injustice. »«
Madame !»
« Et je viens vous demander de la réparer. »
« Et moi, madame, scandait sévèrement le roi, si vif soit mon regret de vous désobliger, je vous prie de garder devant moi un silence absolu sur cette affaire. »
Mais madame de Pompadour était tenace, consciente de son influence et certaine que son attitude ne pouvait nuire à sa fortune, elle n'allait point se tenir pour battue, et elle lui répondit du tac au tac, « Si vif soit mon regret d'importuner votre majesté, je ne puis cependant lui laisser ignorer certains faits dont s'est accompagnée la capture de Mandrin. Tout d'abord, Mandrin a été arrêté au château de Bonrepos, en plein territoire savoyard. »«
Comment cela ? »
s'exclamait Louis XV.
« J'avais cependant défendu, sur l'avis de mon ministre des Affaires étrangères, que sous aucun prétexte on franchit la frontière. »
On l'a fait cependant, sire, en utilisant traîtreusement un souterrain qui fait communiquer l'ancienne chapelle du château de Saint-Barnabé avec les caves du château de M. de Voltaire. L'air fort mécontent, Louis XV reprenait.
Je ne m'explique pas comment le colonel de la Morlière, qui est un soldat discipliné entre tous, ait osé enfreindre ainsi mes ordres.
La favorite ripostait. Le colonel de la Morlière n'a fait qu'exécuter les instructions du fermier général Bourré d'Hérigny, qui, en vertu des pleins pouvoirs dont il était investi, a certainement contraint ce brave officier à agir de la sorte.
« Oh, tout ceci ressemble singulièrement à de la forfaiture, » s'irritait le roi.
« Ce n'est pas tout, sire, »
accentuait Madame de Pompadour.
« L'imbécile !»
Il ne s'est pas contenté de cette odieuse mesure de représailles. Il a fait également incarcérer les malicés dans une prison de Grenoble et ne parle rien de moins que de les faire pendre.
« Oh, oh !» grommelait le monarque. « Voilà qui ne me plaît guère !»
Et il se mit à arpenter à grands pas son cabinet. La marquise, très forte de l'avantage qu'elle venait de remporter sur le roi, se garda bien de troubler sa méditation, qui fut d'ailleurs très brève. En effet, Louis XV, revenant bientôt vers elle, demandait « De qui tenez-vous ces nouvelles ?»« D'un cavalier qui vient d'arriver à l'instant même. »«
Je veux le voir. » »«
Votre Majesté va être satisfaite. » La marquise se dirigea vers la porte par laquelle elle était entrée et qui donnait sur un couloir communiquant directement avec ses appartements particuliers. Elle disparut un instant pour revenir avec un jeune homme revêtu d'un costume de voyage très simple, mais dont le visage plein de gravité, le regard lumineux et l'attitude pleine de distinction et de respect produisirent sur le roi une impression favorable. Avant même que Louis XV eût commencé à l'interroger, la marquise de Pompadour, profitant des bonnes dispositions du roi, lançait au messager « Monsieur, racontez à Sa Majesté ce que vous savez. » Et Thiénot le berger fit au roi, en termes précis et mesurés, le récit des événements qui s'étaient déroulés au présidial de Grenoble ainsi qu'au château de Bonrepos et qui confirmaient, en les développant et en les précisant, les premières déclarations de la favorite. Louis XV l'écouta sans l'interrompre une seule fois, puis il reprit en donnant volontairement à ses traits une impassibilité destinée à masquer ses sentiments intimes.
« Comment savez-vous tout cela ?»«
Sire, répondait Thiénot avec un grand courage, c'est pour moi que Mandrin a failli être arrêté au présidial de Grenoble. »«
Comment ? Vous êtes... » »«
Thiénot, le berger, sire. J'ai juré de mourir ou de sauver Mandrin. Voilà pourquoi... Bien que je sois, moi aussi, hors la loi, je n'ai pas hésité un seul instant à accourir ici. J'ai eu raison, puisque Votre Majesté a daigné m'écouter, me permettant ainsi de faire éclater la vérité à ses yeux.
« Cela suffit !»
congédiait sèchement Louis XV, sans toujours rien laisser voir de ce qui se passait en lui.
« Retirez-vous !» ordonnait Madame de Pompadour à Thiénot.
Celui-ci s'inclina devant le roi, qui ne le regardait plus, puis devant la favorite, qui lui murmura à l'oreille « Allez m'attendre où je vous ai dit. » Elle s'en fut ouvrir elle-même la petite porte à Thiénot, qui disparut. Et elle rejoignit le roi, qui, le visage assombri, s'était dirigé vers la fenêtre. La marquise connaissait suffisamment le caractère de Louis XV pour être certaine qu'il était réellement troublé de ce qu'il venait d'entendre. Le moment était donc propice pour s'emparer de sa volonté hésitante et le diriger vers le but qu'elle s'était assigné. Elle s'approcha de lui, et, trop adroite pour brusquer les choses, elle fit simplement sur un ton de déférent et affectueux reproche « Et maintenant, sire, vous me comprenez, n'est-ce pas? Et vous m'excusez, sans doute. » Le roi la regarda avec une certaine inquiétude.
« Mon ami, » fit-il avec une mélancolie exempte de toute irritation. « Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites qu'un roi de France ne doit jamais renier sa parole, et vous avez raison. Mais lorsque j'ai gracié Mandrin, j'ignorais bien des choses, et les arguments de mon lieutenant de police m'ont convaincu que, uniquement préoccupé de vous être agréable, j'avais pris une mesure contraire à l'intérêt de l'État. Ne me demandez donc pas de revenir une troisième fois sur une décision que je suis contraint de déclarer irrévocable.
« Sire, s'écria la marquise, l'autre jour, lorsque ma cousine vous exposait le mal que les fermiers généraux causaient à la France, je vous ai vu frémir d'une juste colère. Et votre indignation vous a inspiré cet acte de clémence, tout à votre gloire. Depuis ce moment, on vous a demandé, au nom de l'État, de vous montrer impitoyable, et vous avez étouffé la noble pitié qui était en vous pour céder à ces nouvelles instances. Mais, après ce que vous venez d'apprendre, votre majesté conviendra que ce n'est plus seulement aux pauvres gens que les fermiers généraux s'attaquent. C'est aussi votre autorité qu'ils battent en brèche, mettant en pratique les dangereux propos que tenait dernièrement l'un d'eux.
« Palsambleu ! » reprenait Louis XV. « Je ne puis cependant, je vous le répète, arracher Mandrin à ses juges ?»«
Ce n'est pas cela que je vous demande. »«
Alors, que voulez-vous ?»«
La liberté de Nicole. »«
Je puis vous l'accorder. Ce soir,
j'en parlerai au lieutenant de police. »« Sire, je voudrais vous éviter un pareil souci. » Permettez-moi seulement de me rendre à Valence, muni d'un blanc-seing de votre majesté, grâce auquel je pourrais faire sortir Nicole de ce couvent où M. d'Hérigny l'a emmuré, et délivrer en même temps ses parents, mes pauvres cousins malicés, que cet homme vindicatif, implacable, a fait également arrêter.
« Et quoi ? »
s'étonnait Louis XV. « Vous entreprendrez un si long voyage ? » Et pour un motif aussi futile ? Ce n'est pas un motif futile, sire, que de sauver des innocents.
Oh, voilà une fort belle parole, très cher ami. Mais il me semble qu'en envoyant là-bas un courrier avec des ordres précis,
Monsieur Bourré d'Hérigny est parfaitement capable de le faire disparaître, tandis qu'il n'osera ni m'attaquer, ni me résister. Face à face avec lui, je suis sûr d'être la plus forte.
Je crains, faiblissait le roi, que ce déplacement ne vous cause bien des ennuis et une grande fatigue.
Sire, rappelez-vous qu'hier encore votre médecin, inquiet de ma santé et qui, depuis quelque temps, laisse fort à désirer, me conseillait de changer d'air et de me rendre pendant quelque temps dans le Midi.
Ah, c'est fort juste. Mais que vais-je devenir en votre absence ? « Oh, sire !»
sourit la favorite avec malice. « N'allez-vous pas retourner à Versailles ?»«
Dès demain,
où vous réclame l'inauguration d'un certain hôtel dit du Parc aux Cerfs. » Louis XV rougit légèrement. Madame de Pompadour poursuivait toujours avec le même accent de déférente amitié. « Dont j'ai choisi moi-même l'ameublement et les tentures. » Et dont votre fidèle valet de chambre, Lebel, s'est chargé, m'a-t-il dit, de recruter le personnel. Nul doute que, pendant mon court séjour en province, votre majesté n'y trouve un dérivatif à son incurable ennui. Et croyez que j'en serais ravi.
Eh bien, c'est entendu,
déclarait le roi, visiblement désireux de couper court à ce délicat entretien. Il s'en fut s'asseoir à son secrétaire, prit une feuille de vélin à son sceau et à ses armes, sur laquelle il traça quelques lignes. Puis il la remit à la marquise en disant
« Il ne me reste plus, ma chère marquise, qu'à vous souhaiter un bon voyage et un prompt retour. »
La favorite s'empara du blanc-seing qu'elle venait d'obtenir si adroitement du faible monarque, qu'elle remercia avec effusion. Quand elle se fut retirée, Louis XV se leva, soupira, bâilla et s'en fut vers la fenêtre. Et, tout en s'amusant à suivre les évolutions des signes sur le bassin qui s'étalait à ses pieds, il murmura d'un air égoïste et satisfait
« Oh, tout cela durera bien autant que moi, et après moi,
le déluge. »